Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Curiosité est un vilain défaut.
Que nous réservait le 42e salon de l'auto? Peu de révolution. Critère du moindre encombrement pour nos rues encombrées.
Jusqu'à 22h.
Le clos du salon est sans contredit la DS19 Citroën qui a toutes les faveurs de la curiosité. Ligne hardie et visibilité panoramique. Vaste main arrière. Volant souple à une seule branche. Suspension inédite. Un ensemble de solutions originales.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'était il y a 120 ans, l'Automobile Club de France
ça était créé,
une aventure formidable.
Je
suis fasciné par ces voix d'il y a 50 ou 60 ans. Pourquoi tout le monde avait la voix pointue? Je pense que c'est lié, faudrait qu'André Facetta, notre réalisateur,
nous explique
ça.
On va l'inviter dans notre émission,
à la technique, parce qu'ils avouaient des voix graves, eux aussi, les journalistes.
Une diction particulière, on ne parlait pas. Vous voyez, il ne parlait pas comme moi, hyper vite. Il y avait une diction particulière, on se posait.
C'est pas faux. En tout cas, on vous raconte l'histoire de l'automobile en France il y a 120 ans. Donc, l'Automobile Club de France était créé. C'est une histoire d'amour qu'on vous raconte entre les Français et la bagnole avec le journaliste et grand reporter Christian Choupin. Bonsoir.
Bonsoir. C'est un peu comme les toilettes, c'est ça ?
Aussi, oui, c'est aussi. On y passe beaucoup de temps dans nos voitures. Donc, je disais qu'on fête le 120e anniversaire de la création de l'Automobile Club de France, 1895. Mais 6 ans plus tôt, il y avait déjà une manifestation dans le jardin des Tuileries qui attirait beaucoup de monde. C'était quoi ?
Et c'était l'exhibition de voitures sans chevaux. On était à l'ère de la voiture hippomobile,
oui,
avec les chevaux. Mmh. Là, ça sentait un peu moins le foin. C'était le début des moteurs à vapeur. Et une exposition comme ça qui a été organisée pour prendre un peu la température, savoir si justement la voiture, en tant qu'invention, allait devenir vraiment... un objet, on va dire une machine qui allait prendre sa place dans la société moderne.
C'est en quelque sorte l'ancêtre du salon de l'auto. C'est pas le premier salon de l'auto officiellement, mais ça commence à y ressembler, c'est
ça ? Oui, mais c'est l'ancêtre du salon de l'auto, oui, c'est bien ça. Mais imaginez-vous à cette époque, les voitures, donc c'était des chevaux. Et là, vous découvrez une espèce de carriole comme ça, avec un petit moteur à vapeur. Imaginez la curiosité des gens à cette époque.
Mmh. L'inquiétude peut-être aussi.
De voir cette machine, ouais, peut-être l'inquiétude, l'odeur, le bruit que ces voitures provoquaient. Quelque chose d'assez enthousiasmant pour l'avenir.
Le Salon de l'Auto, c'est l'Automobile Club de France qui l'organise. Le premier a eu lieu en 1898. Il y avait beaucoup d'exposants.
296 exposants exactement. Il y avait Peugeot, Panhard-Levasseur, Benz, ouais, notamment. Il y avait aussi Mercedes. Il y avait au total quelque chose comme 140 000 visiteurs. Tout de suite, un succès global incroyable, parce qu'il y a toujours cette curiosité, voilà. Les gens à cette époque, tout de suite imaginaient pouvoir posséder une voiture, et c'était une grande curiosité.
Christian Choupin, comment elles étaient choisies, ces voitures qui étaient exposées dans ce premier salon de l'auto ?
Alors là, attention, un grand test. Hein. Il fallait pas aller au bout du monde, mais tout simplement rallier de Paris à Versailles, soit 40 km. Une sorte de test afin de prouver la fiabilité de ces voitures, parce que à cette époque, il y en a pas mal quand même qui explosaient, parce que les moteurs à vapeur n'étaient pas très fiables. Alors imaginez les explosions, un peu dangereuses ces voitures à l'époque quand même. Donc il fallait déjà les tester avant de les montrer au public, mmh, et prouver qu'on pouvait rouler avec sans difficulté.
Alors le président Félix Faure se rend à son salon de l'auto le jour de l'inauguration. Comment il réagit ?
Plutôt déçu le président, parce qu'il les trouve nauséabondes, pas belles, ça fait du bruit, bref, pour lui ça représente absolument pas l'avenir, en plus il les trouve très laides.
Et 67 ans plus tard, c'est le général de Gaulle qui inaugure le salon de l'auto, on est porte de Versailles à Paris. Voilà notre archive, si André Facetta la retrouve.
Elle vient de Versailles en voiture.
Dans le 52e salon de l'automobile, le général de Gaulle a découvert une nouvelle Rolls. La firme la plus conservatrice du monde, qui était restée 60 ans fidèle à la même ligne, a cédé au vent du progrès. Les pneumatiques, étudiées dans les centres de recherche, nées sur les circuits de compétition, équipent désormais une gamme importante de routières, au même titre qu'ils équipent les voitures de sport. Autre nouveauté, l'apparition d'une boîte de vitesse entièrement automatique. Elle équipe maintenant la 404, dont le modèle standard Grand Tourisme possède aussi le moteur à injection.
1965, Salon de l'Auto, Porte de Versailles, ça n'a pas toujours été Porte de Versailles, le Salon de l'Auto?
Non, non, au début c'était au Salon des Tuileries, puis après il y a eu les événements, les deux guerres, et ensuite ce salon a trouvé sa place, puisqu'il fallait beaucoup plus d'exposants, il fallait de la place tout simplement, il fallait être en intérieur aussi, et donc ce salon a pris place Porte de Versailles.
À partir du début des années 60, De Gaulle c'était la déesse. Sa voiture fétiche.
De Gaulle, c'était la déesse, sa voiture fétiche. Alors pourquoi il était devant cette auto durant ce salon? Tout simplement, et il focalisait un peu sur cette voiture parce qu'il voulait montrer la voiture du peuple. Comme a pu le montrer dans un contexte assez différent, Hitler avec la coccinelle. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il fallait vraiment montrer que la voiture était une machine d'avenir et que tout le monde pouvait l'acheter. Et du coup, De Gaulle se projetait aussi dans cette dimension.
Et c'est là qu'on découvre la DS.
La DS, la deux chevaux. On va parler de voiture.
Bien sûr, et de vitesse, le sport, qui devienne une vitrine pour l'industrie automobile. Allez, direction les 24 heures du Mans. Dans la curiosité. A tout de suite, enfonce.
Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Dernier préparatif pour le plus formidable show sur quatre roues, celui des 24 heures, un mythe. La plus longue course d'endurance, les bolides les plus rapides, jolie fille, glamour, risque maximal.
RTL.
Le Mans, c'est 24 heures à plein régime, à des vitesses délirantes. Un combat permanent où il en va de la survie de chacun.
Jusqu'à 22 heures.
Le Mans est la survivance d'une époque où courir, c'était braver la mort. Il fallait rouler, advienne que pourra.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'aventure automobile en France, c'est le titre du livre de notre invité Christian Choupin aux éditions Larousse. Et c'est l'histoire que l'on vous raconte ce soir sur RTL à l'occasion des 120 ans de l'Automobile Club de France. Christian Choupin, le sport est-il devenu rapidement une vitrine de l'industrie automobile?
Oui, c'est une vitrine de l'industrie automobile, tout simplement, parce qu'on prouve par les compétitions simplement la fiabilité des voitures. On prouve aussi leur performance. Et tout cela mélangé, eh bien, ça fait vendre des voitures, hein, et toujours aujourd'hui.
Et la première grande course de l'histoire, c'est quoi en France?
Paris-Rouen, 1894 de mémoire.
Donc c'est plus loin que Paris-Versailles, hein, que vous nous aviez...
Attention, là, 145 km, je peux vous dire que c'était assez difficile.
Ouais.
Imaginez-vous le départ à 8h du matin, l'arrivée, selon vous.
Trois jours plus tard.
Non, non, 20h, le même jour, quand même.
Quand même.
Course de régularité, c'était déjà une course d'endurance à l'époque, comme les 24 heures du Mans, maintenant, mais on a changé d'air.
Il y a eu aussi les grands raids, la croisière jaune, la croisière noire. Qui les organisait? C'était quoi l'objectif?
Ben là, c'est une initiative d'André Citroën, à la base, tout simplement avec des voitures chenillettes, faire beaucoup de kilomètres, c'est-à-dire mélanger le concept de la voiture et de l'aventure.
Donc c'était des aventures, par exemple, la croisière jaune, c'est en Asie.
En Asie.
Et la croisière noire, c'est
en Afrique.
Ouais.
Et entre ces deux épreuves, Renault a apparemment essayé un peu de
faire la même chose. Ouais,
voilà, de faire la même chose, mais surtout d'essayer de dissuader Citroën de réaliser un nouveau challenge, une nouvelle aventure, ce qu'il a fait directement derrière pourtant.
On avait raconté d'ailleurs cette histoire, cette rivalité à l'occasion du salon de l'auto la saison dernière. Allez, on va faire un bond dans le temps pour parler d'une course mythique, les 24 heures du Mans.
Ferrari et Matra se retrouvaient à égalité, avec avantage Matra, comme diraient les tennismen, une balle à ne pas perdre, c'était la balle de match. C'était la victoire, le doublé consécutif pour Matra au Mans, doublé aussi pour Henri Pescarolo, associé cette année à Gérard Larousse.
1973, victoire de Pescarolo et Larousse. Pescarolo, c'est quoi, l'une des légendes des 24 heures du Mans, on peut dire ça?
C'est Monsieur Le Mans, pour les passionnés, c'est le pilote au casque vert. C'est un pilote qui s'est grandement illustré aussi en Formule 1, mais qui a surtout brillé en endurance et qui a aussi été un très grand manager. Et qui est toujours aujourd'hui, il a donné sa vie aux 24 heures du Mans et il est toujours aussi passionné.
C'est quoi? C'est plusieurs dizaines de participations? Combien de victoires?
C'est 4 victoires de mémoire. Il est toujours sur les circuits. Il a eu sa propre écurie après. Le record de victoires, il est pour Tom Christensen. C'est un Danois. 9 victoires au total.
Ah oui, c'est énorme. Donc c'est plus de 2 fois plus que Pescarolo. Jackie Hicks, c'était combien de victoires? Parce que lui aussi, c'est une autre légende
de mémoire.
6 victoires.
Christian Choupin, les 24 heures du Mans, c'est peut-être la plus grande course au monde. Qui l'a créée?
Qui l'a créée? Elle est née tout simplement autour d'une discussion, figurez-vous, au salon de l'automobile, entre trois personnes. Là, je prends ma petite anti-sèche quand même, parce qu'il faut s'en souvenir. C'était au Grand Palais en 1922, entre Georges Durand de l'ACO, l'Automobile Club de l'Ouest, qui organise les 24 heures, Charles Farou, qui était journaliste au journal L'Auto, et Émile Coquille. Cette course est née tout simplement d'une grande discussion, d'un grand projet pour créer la plus grande des épreuves.
Alors la première édition des 24 heures du Mans a lieu en 1923, elle attire les foules?
Non, c'est un bide.
Ah bon?
Et pourquoi c'est un bide?
C'est un bide parce que orage pendant 24 heures, deux tours d'horloge.
Heures de la pluie, c'est ça?
Sous une pluie battante, et puis là, une victoire anonyme du duo Lagache-Léonard sur une Chenard et Walker. Ça n'existe plus.
Ouais. Et puis après, ça va prendre, bien sûr, et puis c'est une course qui va intéresser les constructeurs, pourquoi?
Eh bien, tout simplement parce que quand vous allez aux 24 heures du Mans, en tant même que spectateur, les voitures que vous voyez tourner, eh bien, ce sont tout simplement les voitures que vous pouvez presque acheter dans le commerce, puisque ce sont les mêmes carrosseries, sauf pour la catégorie prototype, maintenant, où l'on développe, bien sûr, c'est aussi une vitrine technologique, où l'on développe, tout ce qui est mécanique pour les voitures que l'on peut acheter, tout simplement avec les nouvelles technologies, les quatre roues motrices, ça n'a pas été le cas, là c'était en rallye, mais il y a eu pas mal d'innovations, notamment en 24 heures du Mans.
Oui, ça veut dire que les constructeurs testent des matériaux ou des solutions technologiques qu'on retrouve plus tard, quelques mois ou quelques années plus tard, dans nos voitures.
Dernièrement, aux 24 heures du Mans, depuis l'ère des Peugeot, les diesels notamment ont beaucoup progressé aux 24 heures du Mans.
Et donc ça a effectivement des conséquences pour nos voitures au quotidien. Quand on dit 24 heures du Mans, Christian Choupin, on pense tout de suite à une ligne droite de légende, les Hunaudières. Alors moi, je suis jamais allé aux 24 heures du Mans. Est-ce que vous pouvez nous décrire, c'est quoi? Ça ressemble à quoi?
Eh bien, les Hunaudières, c'est tout simplement déjà à l'origine une voie romaine qui reliait Le Mans à Tours, une ligne droite de 5,4 km exactement. Mmh. Et c'est une partie, ce n'est pas un circuit, hein, c'est une route de tous les jours que tout le monde emprunte, fermée exclusivement pour les 24 heures du Mans.
Et alors, pourquoi elle est mythique? Parce qu'on atteint des...
Elle est mythique parce qu'on...
de vitesse, c'est ça?
Oui, des records de vitesse à l'époque qui étaient complètement incroyables. Le record est de l'ordre de 404 km/h, le record homologué de 404 km/h. Mmh. Et d'ailleurs, en 1990, il y a des chicanes qui ont été posées à deux endroits différents sur les Hunaudières, parce que là, on atteindait des vitesses complètement
incroyables. Donc, on peut pas battre ce record, c'est ça? 404.
On ne peut plus battre ce record parce que notamment, c'était en 1999, Marc Weber avec sa Mercedes s'est envolé et a fait un saut périlleux avec sa voiture. Des problèmes d'aérodynamique tout simplement, puisqu'au bout d'un moment, à 400 km/h, 450 km/h, la voiture peut très rapidement devenir un avion. Alors parce que les Formule 1 ne vont pas à cette vitesse. Hein.
Vous évoquez les accidents, Christian Choupin, Le Mans, c'est aussi l'accident par exemple de Pierre Levègue il y a 60 ans, il roule en Mercedes, qu'est-ce qui lui arrive?
Oui, avec cette Mercedes 300 SLR, juste avant, à l'entrée de la ligne droite, hein, il essaye d'éviter un concurrent attardé, et d'un seul coup, à la hauteur des tribunes, sa voiture explose littéralement. Et là, le moteur part dans le public, ainsi que beaucoup de pièces. C'est une tragédie incroyable, la plus grosse tragédie en sport mécanique de l'histoire de l'automobile. Et là, il y a 82 morts, exactement.
Un drame qui amènera la marque allemande, d'ailleurs, à se retirer de la course pendant plusieurs décennies. L'aventure automobile en France, ce sont aussi des voitures de légende. On a choisi les populaires. Tiens, deux chevaux, Dauphine et 404. On vous les présente juste après les infos.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Le rallye automobile Monte Carlo, le plus vieux et le plus célèbre de tous les rallyes, est né en 1911.
RTL.
Parmi les grandes premières, une victoire du moteur arrière, une Dauphine, en 1958. 1959, une victoire de la traction avant avec la DS Citroën.
Jusqu'à 22h.
Les grands moments avec les Mini en 64-67 pour arriver à l'ère Alpine Renault en 1971.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Avec le journaliste et grand reporter Christian Choupin, on vous raconte l'histoire de la voiture en France. C'est une aventure qui a commencé, vous l'avez entendu tout à l'heure, en 1889 avec la première exhibition de voitures sans chevaux. C'était l'ancêtre en quelque sorte du salon de l'auto, cette exhibition. Christian Choupin, on vient d'entendre le nom de certaines des voitures qui ont brillé sur le rallye de Monte Carlo. Ouais, ça rappelle des bons souvenirs. Parmi elles, il y a la Dauphine. On va parler de la Dauphine maintenant. Quand a-t-elle été lancée par Renault? la Dauphine?
Ben, c'était la voiture des années 60, hein, et a essayé d'avoir tout de suite plus de succès que la 4 chevaux à l'époque. Et c'est une voiture qui a été faite aussi pour un marché américain, avec une tentative d'exporter une voiture française, une toute petite voiture bien sympa, avec des pneus avec les flancs blancs, avec des couleurs vraiment criardes, rouge pétard, même l'intérieur rouge, simili-cuir. Et elle s'est payée un petit aller-retour, cette voiture, parce que
ça
le marché américain...
Non.
La Cadillac de 6 mètres, ça le fait bien. Mais la petite Dauphine, ils l'ont trouvée bien mignonne, mais pas du tout à leur taille. Et elle est vite revenue en France. C'est bien dommage.
Mais beaucoup
parce
trop
que c'était quand même un succès chez nous, avec plus de 2 millions de Dauphines vendues.
Ouais. Alors, pour essayer de gagner la confiance des Américains, pourtant, Renault avait mis des petits plats dans les grands, et même de la publicité, écoutez.
There's another handy way to get around and have fun doing it. The Renault Dauphine, the car made in France to make driving fun again. Balloons, please. Now, there's lots to talk about, so let's make the camera go fast.
Ça n'a pas marché, malheureusement, comme vous le dites, Christian Choupin. Un aller-retour pour la Dauphine. Mais en revanche, sur le marché français, c'est un vrai carton. Ça commence avec la présentation à la presse. Comment elle est organisée, cette présentation? Ça passe en Corse, c'est ça?
Eh ben ça se passe en Corse, et notamment il me semble que c'était en fait des cartes postales qui étaient envoyées à tous les concessionnaires. Ils ont reçu la carte postale avec la Dauphine, et le rencard a été donné en fait pour essayer cette voiture, et après ramener ces voitures dans les concessions et les vendre directement au public.
La presse réagit bien quand la voiture sort. C'est une voiture qui est appréciée par les journalistes.
Oui, c'est une voiture qui est appréciée par les journalistes. Ça n'a pas toujours été le cas pour les autos, notamment la 2 chevaux dont on parlera tout à l'heure.
On va en parler tout de suite.
Allez. Non, faut pas aller trop vite. Il y a encore plein de choses à dire sur la Dauphine. Parce que la Dauphine, vous nous avez dit 2 millions de voitures vendues. Ça a même été, comment on peut dire, la martingale de Renault en quelque sorte. Ça représentait... quelle part du marché de Renault en France, la Dauphine?
La Dauphine, ça représentait à cette époque quelque chose comme 80% du marché pour eux.
C'est
parce
énorme.
Que c'était c'était une voiture qui était assez abordable, 554 000 francs de l'époque. Hein. Je me trompe de devise.
Super avec les anciens francs.
Voilà, elle était découvrable aussi dans une de ses versions.
Il y a eu plein de modèles différents.
Elle a été déclinée en je ne sais pas exactement combien de versions, mais son moteur arrière était un succès. Vraiment un très grand succès, parce qu'en plus c'est une voiture qui ne consommait pas beaucoup et que l'on pouvait utiliser vraiment pour tout faire, tout simplement.
Alors, on peut en parler maintenant de la 2 chevaux. C'est une autre voiture évidemment populaire par excellence. Pourtant, lors de sa sortie, juste après la Seconde Guerre mondiale, la presse n'y croit pas trop.
Non, la presse n'y croit pas trop, surtout quand elle a été présentée au salon de l'automobile, en fait. C'était assez original parce que le capot était vissé et les journalistes ne pouvaient même pas regarder le moteur.
Pourquoi elle était vissée?
Eh ben, c'était un petit secret, histoire de découvrir la voiture après. Et du coup, cette voiture qui était quand même préparée depuis la Seconde Guerre mondiale a été dévoilée assez tardivement, en fait, parce qu'il y a eu un nombre de prototypes incroyables, plus de 20 prototypes pour en arriver à cette voiture. Et c'est une voiture assez basique, assez simple, mais il faut savoir que quand elle a été développée, les ingénieurs, en quelque sorte, si on peut les appeler comme ça à l'époque, ils pensaient pourtant sortir cette voiture par exemple pour la démarrer encore avec une manivelle. Et en fait, la jeunesse de cette voiture est assez incroyable parce qu'elle a été faite donc pensée par Pierre-Jules Boulanger, qui était à la tête de l'étude chez Citroën. Et l'idée de la 2 chevaux, elle est venue tout simplement un jour. Il a traversé un village où il y avait des charrettes, un embouteillage de charrettes. Et là, il s'est dit, il faut absolument produire une voiture accessible pour tous, pas cher, capable d'aller dans les chemins, de se balader sur la route, tout terrain, et surtout qu'il soit simple, vraiment très simple mécaniquement parlant, pour être accessible au plus grand nombre.
Alors la presse fait la fine bouche quand elle découvre la 2 chevaux, mais le public...
Ah ben, le public est
les utilisateurs, ils adorent.
Hyper séduit par cette voiture parce que elle a une bouille vraiment super sympa. Même à l'époque, tout de suite, elle a un succès vraiment incroyable, à tel point que quand elle est mise en vente, d'ailleurs... Son prix de l'époque, là, je m'en souviens plus vraiment. Mais pour commander une 2 chevaux, la première année, il y avait 5 ans d'attente.
Mais pourquoi?
Eh ben parce que derrière, la production ne suivait pas.
Parce qu'on est dans les années d'après-guerre, qu'il y a des restrictions de matières premières.
Exactement. Il n'y a pas assez d'acier. tout simplement.
D'accord.
Il n'y a pas assez d'acier, on n'importe pas encore l'acier comme on le fait maintenant. Maintenant, on dirait c'est plutôt du plastique, hein, c'est plus de l'acier pour les voitures.
La deux chevaux, la deux deuches, comme on dit, ça reste une voiture mythique. Il y a un marché de l'occasion encore aujourd'hui.
Bon, c'est un marché incroyable. Là. Si vous allez sur les annonces, une deux chevaux, on va dire qu'une belle deux chevaux, ça commence aujourd'hui à 7-8 000 euros. Et puis alors, les modèles vraiment rares peuvent grimper très vite, au-dessus de 20 000, 30 000, voire plus.
Hein. Ça se répare encore, ça? Les deux chevaux?
Mais ça se prépare, mais vraiment hyper simplement.
Ouais,
hein.
C'est vrai.
Ah oui, non, mais d'ailleurs, il y a un garage à côté de chez moi, à Saint-Maur, hop, là, qui bricole des deux chevaux, c'est pas pour lui faire de la pub, je passe tout le temps devant, moi je m'y intéresse pas vraiment. J'adore les anciennes voitures, mais je préfère les voitures un petit peu plus sportives, moi.
Un peu plus rapides.
Ça roule vite.
Allez, après Renault et Citroën, honneur à une Peugeot, la 404. Elle est créée pour concurrencer quelle voiture? C'est un peu plus gros, la 404.
Un peu plus gros, elle est faite tout simplement pour concurrencer la voiture phare, la DS.
D'accord.
À l'époque. Et tout de suite.
Qui dessine la 404?
C'est Pininfarina.
Donc c'est un Italien, c'est ça? C'est un nom qui me renvoie à Ferrari. Pininfarina.
Exactement, ouais. Mais c'est un bureau d'études de design.
D'accord.
Au départ, Pininfarina. Ouais. Il a grandement travaillé avec Peugeot. Mmh. Et donc cette voiture est arrivée parce que la DS, elle a quand même un design complètement incroyable, révolutionnaire à l'époque. Et il fallait essayer d'aller sur son terrain. Et tout de suite, la 404 a été faite. Et vous pouvez voir la calandre avant, complètement différente des autres voitures. L'arrière, qui ressemble à des enseignes de bar tabac. Mmh. Ça a été pensé comme ça à l'époque, hein.
Il y avait un petit défaut, rapidement, la consommation dans les premiers modèles.
Oui, la consommation était un peu excessive. Et d'ailleurs, les premiers clients, quand ils ont voulu mettre le plein dans cette voiture, c'était le point d'interrogation. Mais où est la trappe à essence? Et la trappe à essence, eh bien, elle est sous la plaque d'immatriculation derrière.
Tout simplement. Merci beaucoup, Christian Choupin. Votre livre, L'aventure automobile en France, avec de très très belles illustrations et des facs similés, est publié chez Larousse.
Merci.
Merci beaucoup.
Vous écoutez RTL.